France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Jeannine Rose. Je suis née en 1943 à Aurillac dans le Cantal et je suis entrepreneur de spectacle.
Mon cœur, quand j'ai bien de la peine, partant de la Madeleine, je monte au Sacré-Cœur. Et là, d'un seul regard, on voit la capitale et ses rues transversales surgissent de toutes parts.
On retrace un peu. Jeannine Rose, votre vie, on pourrait dire un peu comme Tolstoï, enfance, adolescence, jeunesse, hein, et oui. les trois grandes périodes du début où voilà, la rose sans mauvais jeu de mots éclos. On arrive très vite d'une certaine façon aussi à la fin des années 60, donc vers 66-67.
Oui.
L'Écluse, la rive gauche, vous qui êtes du Marais, cette découverte de la rive gauche, c'est aussi l'existentialisme, c'était tout ça qui est mêlé à un Paris foisonnant. On imagine que là, on peut danser dans des caves jusqu'à l'aube.
Oui, mais moi, j'y vais pas.
Et ça, vous n'y allez pas?
Non, j'y vais pas. Maman avait un ami d'enfance qui s'appelait Léo Noël, qui lui a été destiné à jouer du violon et qui à la guerre avait reçu je sais pas quoi au bras et qui jouait de l'orgue de Barbarie et qui était un des co-directeurs de l'Écluse. Et c'était le seul endroit où j'avais le droit d'aller le soir.
Parce vous traversiez la Seine.
Oui, parce qu'il me ramenait tous les soirs à 2h du matin. Et là, ça a été ma troisième grande rencontre. Parce que là, j'ai rencontré d'abord une variété.
Vous avez quel âge, là, Jeannine Rose, quand vous arrivez à l'Écluse?
16 ans et demi, 17 ans.
Donc vous êtes à nouveau au lycée à Paris?
Au lycée Lamartine, et maman a enfin pris un appartement, et on est boulevard de la Chapelle. Voilà, pratiquement à côté des Bouffes du Nord, qui sont toujours encore un garage, qui n'existe pas. Et là, Léo Noël habite dans le 20e. Donc quand il rentre le soir, il me dépose d'abord et puis ensuite il rentre chez lui. Et c'est un endroit où je peux aller de 8h du soir à 2h du matin, plusieurs fois par semaine.
Et vous y allez au départ pourquoi? Pour faire des petits boulots ou parce
non,
que c'était...
Peut-être que maman le rencontre et lui dit oh, « bah, tiens, ça serait bien si t'invitais Jeannine ou... » Je ne sais pas comment ça a commencé, je ne sais vraiment pas. Je sais simplement que je me suis trouvé une maison. Là, c'était vraiment ma maison.
Racontez aux auditeurs que l'Écluse, c'est pas une cave, mais c'est dans le Saint-Germain, c'est sur le quai des Grands Augustins.
Oui, ça n'existe plus d'ailleurs du tout, parce que ça a été vendu il y a 2-3 ans. C'était devenu un restaurant.
Un restaurant, oui.
Oui. C'est une espèce de petite boutique en profondeur où il y a une scène où on peut juste mettre un piano droit contre le mur. On ne peut pas mettre plus de 3 personnes sur scène parce que c'est les murs. Il n'y a pratiquement pas de dégagement. Il faut aller s'habiller dans le café d'à côté. Et c'est là où passe de 10h du soir jusqu'à 2h du matin à peu près une quinzaine de numéros d'artistes. Que ce soit ce qu'on appelle les chanteurs rive gauche ou des comédiens qui viennent faire du cabaret pour arrondir leur fin de mois. Par exemple, il y a Darras et Noiret qui viennent, il y a De Vos, et puis tous les chanteurs. Et là, il y a une chanteuse qui fait 80 personnes de public et qui s'appelle Barbara. Ça, c'est une rencontre aussi. C'est une grande, grande, grande rencontre parce que elle est totalement fascinante. Moi, elle me fascine. On ne peut pas dire qu'elle soit belle. Je ne suis pas encore capable, à 17 ans, de la trouver belle. Je la trouverai belle 2-3 ans plus tard. Mais là, je la trouve étrange. Elle dit non à tout, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. On veut lui faire refaire le nez, elle dit non. On lui dit qu'il ne faut pas mettre de noir, elle dit non. Il faut qu'elle change de chanson, elle dit non. Moi, pour moi, c'est formidable. Une femme qui dit non, je ne connais pas. Donc, Et puis, j'arrive au moment donné où elle commence à chanter ses premières chansons. Et je vous dis, au maximum, on est 80 dans la salle. Et il n'y a pas qu'elle, il y a Christine Sèvres qui chante, la femme de Jean Ferrat, il y a Cora Vauquer, il y a plein d'artistes qui passent. Romain Bouteille, je veux dire, Bouteille, c'est la star du cabaret, c'est plus tard qu'il va aller s'installer ailleurs. Et moi, je passe pour la fille adoptive
de Léo Noël.
Du patron, oui.
Nous avons le plaisir de vous présenter maintenant la figure de proue de l'Écluse. Voici Barbara.
Sur des paroles et une musique d'André Schlesser, Souvenance. Quand les ans t'auront courbé, tes amis abandonnés, que les serments, les chimères t'auront seules ainsi laissées, souviens-toi du temps passé, de nos 20 ans, de ma prière. Viens, tant la lune éclaire toutes les primes vertes, si lourdes de rosée, de toute l'ennui belle, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé. Quand reviennent les saisons, les lilas et les moissons, dans ta solitude blême, souviens-toi de nos beaux jours, nos jeux, nos ris, nos amours. On ne dit qu'une fois je t'aime. Viens, tant la lune éclaire toutes les primes vertes, si lourdes de rosée, de toute l'ennui belle, un bouquet d'immortelles nous ferons, mon aimé.
L'Écluse, c'est chez moi, je connais tout le monde. Je pense que depuis la maison de campagne où j'étais enfant, c'est le lieu où je suis chez moi. Je veux dire, tout le monde connaît mon visage sans la plupart du temps savoir qui je suis et pourquoi je suis là. Mais je suis bien. Et puis, j'ai mon identité à moi. Je veux dire, il n'y a pas ma famille, je ne traîne pas ma famille avec moi. Il n'y a pas de témoins, il n'y a rien. Je peux me comporter comme je veux. Je suis assez timide. Je ne parle pas beaucoup. Mais j'absorbe, je regarde ces gens, j'apprends. J'ai beaucoup de plaisir, mais quand on a un tel niveau en face de soi, quand on a tellement ri, comme j'ai pu rire avec Romain Bouteille, c'est extraordinaire. Ça vous forme le jugement aussi, parce que vous avez des points de comparaison. C'était au début, en musique classique, ce qui me manquait beaucoup, c'était d'arriver à me faire un jugement, moi personnellement, sur le plan de la sensibilité, de ce que je pouvais ressentir par rapport à l'artiste. Mais il y avait l'interprétation et la technique. Et c'est ce qui m'a demandé le plus de travail, puisque je ne peux pas faire référence à la partition. Là, j'ai appris les différents comiques, les auteurs-compositeurs. Vous savez, Brigitte Fontaine en train de chanter une chanson d'amour à la guitare, si rupeuse au possible, faut imaginer ce qu'elle est devenue après, quoi. Ou en duo avec Jacques Higelin, beau comme des dieux tous les deux, et puis la larme à l'œil, quoi. On voit le parcours absolument incroyable. C'est amusant, quoi, parce qu'on peut pas soupçonner une seule seconde que ces deux artistes vont en arriver là où ils sont arrivés tous les deux. C'est délirant, parce qu'ils sont tous ce qu'il y a de plus conformes, bien propres sur eux.
Là, vous découvrez un Paris plus léger, plus joyeux, plus...
Puis qui me convient sur le plan artistique, parce que c'est des chanteurs à texte, c'est des engagements politiques, on est en philo, on est Sartre, on est Camus, on est dans une démarche que j'ai pas dans ma famille, quoi. C'est que j'ai avec mes amis, que j'ai de l'époque, et puis ces discussions de gens de rive gauche qui sont très engagés. Il y a des Maurice Fanon, c'est très engagé, Pia Colombo, c'est très engagé. Et c'est des gens qui me sont très proches, alors qu'ils voient cette espèce de petite souris qui est toujours là, assise dans un coin, comme ça, et qui fume. On fume beaucoup. Je fume des celtiques noirs et j'en fume à peu près entre 30 et 40 par jour. Mais je bois pas.
Ah, c'est les caves en fumée.
Ouais. Puis les chanteurs chantent quand même, malgré ça. Et là, c'est une vraie rencontre, mais je pense pas une seule seconde à y aller travailler. Non, je pense que je vais devenir prof de français. Et puis je déclare forfait parce que je veux gagner ma vie tout de suite. Je veux pas entamer des études, travailler en même temps. C'est pas que j'ai envie de quitter la maison parce que je sais que ça va être un drame, mais j'ai besoin d'être autonome financièrement et ne rien demander à ma mère parce que c'est un problème à chaque fois.
Mm-hmm.
jour, il y a un des clients qui m'aime bien, qui fait passer des tests pour des jobs, et qui m'en fait passer un, et qui me dit que j'écris très bien, et que je devrais aller travailler dans une agence de réclame. Bon, alors j'ai pris l'annuaire, et puis j'ai écrit à toutes les agences de réclame qui étaient dans l'annuaire. Je crois qu'il y en avait 12. J'ai été reçue par 6. Il y avait 300 000 chômeurs. Et j'avais le bac. À l'époque, c'était important. Et là, il y avait une agence qui, entre autres de budget, avait l'Olympia, Bobino, le Cirque d'Hiver, le Cirque Pinder, un producteur de cinéma qui est celui qui avait construit le Dragon, auquel j'ai participé, la Fondation Cinéma d'Art et d'Essai, comme le MacMahon, etc. Donc, moi, j'ai choisi cette agence-là, où je suis restée un an et demi. Et là, bah, j'ai connu l'Olympia et Bobino dans leur splendeur. Quoi. C'est un Olympia où, quand il y avait une première, les 5 premiers rangs, on ne savait pas comment asseoir les gens, parce que ça pouvait aller du Premier ministre à la Calas, en passant par Cocteau. C'est quand on regarde les 5 pages de première d'Olympia dans les matchs de l'époque, c'est absolument extraordinaire. Et puis surtout, c'est que je pouvais assister au spectacle. Donc c'était très drôle pour moi, parce que c'était moi qui écrivais les biographies des artistes que j'avais jamais rencontrés. Donc j'ai écrit la première biographie des Beatles, quand ils sont venus avec Trini Lopez et Sylvie Vartan. Moi, j'avais écrit aussi Trini Lopez et Sylvie Vartan. La première biographie de Johnny Hallyday, quand il est passé pour la première fois à l'Olympia. Et puis des gens fantastiques comme Myriam Makeba, les premiers Liza Minnelli, Danny Kaye, Sammy Davis Jr. C'était absolument extraordinaire. Brel, le Brel d'Amsterdam, qui a été, je crois, le dernier spectacle auquel j'ai assisté.
La création d'Amsterdam,
Oui, la première d'Amsterdam. Tous les gens qui ont assisté la première fois où il a chanté ça sur scène s'en souviennent. Je n'ai jamais rencontré une telle salle assommée, au point de pas pouvoir lever le petit doigt, je veux dire, comme on dit sonner. Je veux dire, il a lancé à Amsterdam, et évidemment à cette époque. Brel, il chantait les chansons qu'il n'avait pas encore enregistrées, donc personne ne connaissait cette chanson. Et sa façon de lancer ça sur scène, moi j'étais pétrifiée, absolument pétrifiée.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port
France Musique, les grands entretiens de Jeanine Rose.
Alors, c'est drôle, Jeanine Rose, parce que vous dites que vous êtes anti-séduction, enfin, que c'est quelque chose contre lequel vous luttez, mais en même temps, vous aimez Fred Astaire.
Ah oui, moi j'ai toutes les comédies musicales de Fred Astaire.
Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la séduction chez Fred Astaire. Vous diriez pas ?
Ah non, moi je vois la technique extraordinaire.
Ah, il y a quand même un séducteur aussi, un charme.
Ah non, non.
Donc ce que vous regardez, vous, c'est
non,
la danse
là, je
aussi.
Le vois, je vois pas Fred Astaire comme ça, du tout, ouais. Du tout. Moi, je vois le danseur.
Oui, c'est ça.
Je vois que le danseur. À la limite, les scènes intermédiaires entre les danses... ça me casserait plutôt les pieds, hein. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Mais les numéros de danse sont d'une précision, c'est tellement extraordinaire. Mais séduction chez un homme et séduction chez une femme, ce n'est pas du tout pareil.
La comédie musicale, alors, vous la découvrez comment, au cinéma ?
Mais non, pas du tout. La comédie musicale, c'est en 56. Mon frère et moi,
vous avez 13
ans, découvre West Side Story à l'Alhambra. Avec Shakira, avec toute l'équipe. Et on va y retourner en resquillant, parce qu'on n'a pas d'argent, passant par le boulevard Richard Lenoir, 11 fois. On va voir la comédie musicale 11 fois. C'est la première comédie musicale que j'ai vue. Et ça sera un gag, parce que des années et des années plus tard, je suis avec un de mes cousins par alliance, qui est chef d'orchestre, qui s'appelle Gary Bertini, qui me donne rendez-vous au Théâtre des Champs-Élysées parce qu'il a rendez-vous avec un chef d'orchestre qui dirige l'Orchestre de Paris. Et qu'après, on va aller déjeuner. Donc, si je peux le retrouver, backstage, je retrouve là. Et puis, j'entends qu'il parle et qu'il dit « Léni, 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 Léni ». Enfin, je comprends que le chef qui l'attend s'appelle Léni. Et puis, à un moment donné, j'entends qu'il s'appelle Léni Bernstein. Et je dis à mon cousin, « Oh, dis donc, c'est drôle, il a le même nom que celui qui a fait West Side Story. » Ça faisait partie de mes bourdes. Mais vraiment stupéfaite, quoi. C'est, pour moi, c'était deux mondes qui ne pouvaient pas du tout se rencontrer. Et mon cousin a souri en disant, « Mais c'est le même, ma chère, c'est le même. » Et puis, les ballets de Zizi Jeanpère, ces tours de chant, c'était quand même des spectacles très complets avec du ballet, avec des gags, avec d'autres chanteurs. C'était pas comédie musicale, mais il y avait un petit peu cabaret américain. Mais je connaissais pas du tout l'opérette française à part Luis Mariano, quoi.
Quand est-ce que vous commencez à travailler, Jeanine Rose, vraiment au plateau, à la scène, que vous épousez?
Alors, ça,
cette vie
j'ai d'abord à l'agence de réclame où je suis. Je partage mon bureau avec une jeune femme qui, elle, a fait beaucoup plus d'études que moi, qui est très férue de musique classique, qui va me parler d'un Gustav Mahler dont j'ai jamais entendu parler, et moi je vais lui parler d'une écluse dont elle a jamais entendu parler. Donc, mais moi, je vais l'emmener à l'écluse. Et là, elle va tomber amoureuse de Barbara. Et elle a une amie d'enfance qui s'appelle Marie Begras, qui deviendra plus tard Marie Schex, qui est la sœur d'Anne Sylvestre. Et elle va intégrer le bureau qui gère Anne Sylvestre et Barbara. Et au bout d'un certain temps, elle va me demander de la rejoindre parce que je lui dis que je quitte l'agence, que je ne veux plus rester à l'agence, que ce que je fais ne me plaît plus du tout. Et mes premières attributions, c'est je vais partir en tournée avec deux artistes, Anne Sylvestre et Serge Reggiani. Et là, je suis la jeune fille à tout faire, quoi. Je fais la régie, on n'a pas d'équipe, on n'a rien, je fais les éclairages, donc...
La tournée, elle est en France ?
Tournée en France et j'en ai fait une au Maroc aussi avec eux. Et deux artistes très difficiles, très 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 difficiles, qui ne s'adressent pas la parole. Donc, il faut arriver à tout ménager, à bien organiser. Et moi, je découvre sur le terrain, du fait de m'être beaucoup occupée de mon frère, je sais ce que c'est que de prendre des gens en charge. Et ça se passe relativement bien. Et ensuite, au bout d'un certain temps, Marie et moi, nous quittons l'agence et nous nous occupons plus que de Barbara, dont la carrière démarre. Et là, Marie part, elle, beaucoup en tournée avec Barbara, et moi, je suis à Paris, et je fais les contrats, l'administration, enfin, absolument tout, parce qu'il n'y a personne d'autre, et un chauffeur qui fait la sono, qui entre dans le coffre, vous voyez, de la voiture. Et puis, en février-mars, je commence à trouver que, ça y est, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Je commence à décrocher et là, pour la petite histoire, Barbara décide que on va partir en vacances parce que on se quitte pas 24 heures sur 24. Hein, oui. Ça, c'est
7 jours sur 7.
Ah non, c'est 24 heures sur 24, on est disponible et il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Puis on travaille pendant les vacances, c'est encore les galas dans les casinos. À Noël, jour de l'an, on travaille. Et puis on travaille tout le temps. Et le bureau est chez moi. Donc tous les papiers, tous les contrats, tout ça, c'est chez moi. Elle a exposé à Bobino, c'est déjà la star un peu intellectuelle, mais c'est déjà une star. Donc, rôde autour d'elle Françoise Sagan, Régine et plein de gens que moi je vois arriver un peu à reculons. Et là, elle m'explique qu'on va partir en Normandie chez Françoise Sagan et que Mauville part en fleurs et que j'aurai comme charge de l'empêcher de boire. Et ça va pas. Donc, je dis que non. Mais je sais ce que je fais quand je dis que non. Je pars sur la Côte d'Azur. Et quand je reviens, Marie me dit, écoute, Janine, je suis très embêtée. Et moi, je la regarde ironiquement. Et je dis, oui, c'est ça, elle me fout à la porte. Elle me dit, oui. Comment t'as deviné? Ben, je dis, voilà. Donc, je suis au mois d'avril 68. Et libre.
Moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles, en été un jour au soleil, au soleil. Regardez dans le soir qui penche, la panse au poilier qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse.
Barbara du bout des lèvres. Clos le troisième épisode des Grands Entretiens avec Janine Rose. Réalisation Christine Amado, prise de son Julien Calvas, mixage Jean-Benoît Tétu, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.